RCF.
Dieu nous parle-t-il et comment l'écouter? C'est le thème de la série d'entretiens que je vous propose cette semaine en compagnie du jésuite et théologien Christophe Théobald. Christophe Théobald, nous avons vu avec vous que
Bonjour.
Dieu parle, Dieu agit. Nous disions que le Christ, dans ses rencontres, laisse advenir la parole. Alors, la parole de Dieu, mais la parole de l'autre. Hein, et dans cet échange, il se passe quelque chose de fondamental. La vie est remise en valeur. Souvent, Jésus relève les personnes qu'il rencontre. Alors, dans votre livre, vous parlez aussi de l'Église. Et j'aimerais qu'on y vienne, parce que quand on parle de la parole de Dieu, on peut se dire, cette parole, moi, je la reçois, j'ai pas besoin d'un intermédiaire. Si j'écoute Dieu, par exemple, je peux m'en passer de l'Église.
Ouais.
Pourquoi l'Église, selon vous, joue un rôle dans cette réception de la parole de Dieu?
Elle est absolument décisive. D'abord, je dirais, de manière très élémentaire, il faut toujours rappeler qu'on n'aurait pas les Écritures sans l'Église. Qui a écrit, qui a rassemblé les communautés primitives, qui a canonisé, comme on dit, ces textes, et qui dit que ces textes sont inspirés, parce qu'ils continuent jusqu'à nos jours, à nous inspirer. Mais pour prendre un peu la question de l'Église à partir de son point de départ, plusieurs niveaux peut-être, qu'on risque d'oublier. Le premier niveau, l'Église comme espace d'hospitalité. On pourrait dire, ce qui se passe en Galilée autour de Jésus, à travers ses multiples rencontres et avec les 12, c'est exactement ce que nous lisons dans les Actes des Apôtres et que nous lisons dans l'histoire du christianisme. L'Église, c'est d'abord un espace d'hospitalité qui rassemble les gens, qui les accueille, et dans la réciprocité, ce qu'on a parfois oublié dans le passé. C'est le socle le plus élémentaire.
C'est-à-dire, c'est des personnes qui ont vécu l'expérience de relèvement dont on parlait, de vie qui jaillit en elles, et qui se réunissent parce qu'ils ont rencontré le Christ.
Je dirais, ils ont rencontré d'abord, pardonnez-moi ce mot, des chrétiens.
Des chrétiens.
C'est-à-dire des gens qui sont du Christ, les siens, comme dit l'évangile de Jean. Parce que d'une certaine manière, les gens ne rencontrent pas immédiatement le Christ, ils rencontrent des chrétiens. Et l'Église, c'est le rassemblement des chrétiens, c'est la définition la plus large, le rassemblement des chrétiens, des croyants, et les gens d'aujourd'hui rencontrent le Christ à travers les chrétiens que nous sommes. Et ils peuvent rencontrer le Christ s'ils font avec nous la même expérience qu'ils ont fait avec le Christ, c'est-à-dire une expérience d'hospitalité au sens le plus fort du terme, où leurs questions vitales sont abordées.
Mais est-ce que ça,
c'est le premier niveau.
Est-ce que ça a toujours été le cas, justement, l'hospitalité, Église-hospitalité? Parce que l'Église a aussi eu des périodes où elle était plutôt dominatrice.
Oui, bien sûr. Mais il ne faut pas mythiser le passé non plus, parce que l'Église a inventé des hôpitaux, etc., les écoles. Donc, il y a eu toujours une expérience d'hospitalité ou de fraternité. L'Église a d'une certaine manière inventé aussi ce mot dans l'Antiquité, dans l'Écriture. Ça, c'est le premier niveau. Même si l'Église elle-même n'est pas fidèle à ce qui est sa loi, si je puis dire.
Donc, l'hospitalité.
L'hospitalité.
Et le deuxième niveau, alors?
Alors, le deuxième niveau, c'est justement l'annonce de l'Évangile, la parole de Dieu, à partir des textes du Nouveau Testament et de l'Ancien Testament, bien évidemment. Et là apparaît un deuxième niveau de l'Église, parce que personne ne peut annoncer l'Évangile. Même Jésus de Nazareth ne peut pas faire ça sans être envoyé. Et voyez, le terme « envoyé » nous renvoie à « apôtre », « apostolicité ». Et ça, c'est le deuxième élément. L'Église est le garant qu'à travers l'histoire, si je puis utiliser l'image du relais, le relais soit passé. Le relais, c'est pas un bâton. Le relais, c'est l'Évangile.
On se passe l'Évangile.
On le reçoit. On reçoit la tradition. Et ça, c'est le deuxième niveau.
Donc, ça devient une parole vivante par tous les êtres humains qui se sont succédés au cours des générations.
Voilà.
C'est pas simplement une lettre, mais c'est une parole.
La lettre tue, d'une certaine manière, dit saint Paul. Il faut que la lettre redevienne de nouveau parole vivante. Esprit.
Et c'est ça qui parle aux générations, à toutes les générations.
À toutes les générations. Et c'est une parole qui est accompagnée aussi dans l'Église, on peut l'espérer, par des gestes, et notamment par les gestes fondamentaux qu'est le baptême, l'Eucharistie, ce qu'on appelle les sacrements, parce que le Christ est Verbe fait chair, parce qu'il se met en jeu totalement. Il dit pas seulement les paroles de Dieu, il se dit lui-même, il se donne lui-même, et ça c'est la célébration de la scène et de l'Eucharistie.
Christophe Théobald, les chrétiens sont donc envoyés avec cette parole. Quelle responsabilité, justement, pour conformer les paroles aux actes? C'est parfois compliqué.
Oui, bien sûr. Et là, il y a quelque chose de tout à fait décisif dans la tradition chrétienne que le pape François a rappelé récemment à plusieurs reprises dans ses grands textes, c'est-à-dire l'Église est par essence décentrée.
Décentrée.
Décentrée. Elle est décentrée dans un double sens, c'est-à-dire elle est décentrée par rapport au Christ, Verbe fait chair, et elle est décentrée par rapport à ses contemporains. C'est-à-dire, elle se légitime jamais elle-même, c'est-à-dire sa légitimité, ce sont les autres, et c'est le Christ qui nous envoie aux autres. Et du coup, apparaît ici une question de fidélité. On parle souvent d'orthodoxie. Il faut peut-être d'abord parler en termes de fidélité.
C'est-à-dire?
Est-ce que l'Église est fidèle, elle-même, à travers ses paroles et ses gestes, à ce qu'est sa constitution elle-même, c'est-à-dire le Christ? Et du coup, au début de chaque Eucharistie, nous confessons notre péché, nous confessons notre infidélité. Et ça, ça fait partie de l'institution de l'Église elle-même, c'est-à-dire qu'elle reconnaît avant qu'elle aïche les autres, qu'elle a d'une certaine manière à balayer, pour utiliser un terme un peu vulgaire peut-être, à balayer devant sa propre porte. L'Église doit continuellement balayer devant sa propre porte pour que ça puisse circuler. Et nous, chacun des chrétiens, on doit balayer devant sa propre porte. Pendant le carême, chaque fois, il y a cette confession de notre propre péché.
Alors, l'Église veut parler de Dieu au monde, elle souhaite apporter cette bonne nouvelle au monde. Est-ce qu'elle n'a pas aussi à écouter le monde? Est-ce que la parole ne va pas dans l'autre sens aussi? On peut se dire qu'elle peut surgir aussi hors des sentiers battus, en périphérie. Enfin, le pape le dit souvent.
Oui, alors c'est bien que vous souligniez cela, parce qu'on revient, vous voyez, à la réciprocité. L'Église qui doit d'abord écouter avant de parler, écouter le Christ, écouter évidemment les multiples voix de nos contemporains. Et je dirais là apparaît un nouveau élément de l'Église, l'Église espace d'hospitalité, l'Église où s'annonce et célèbre l'Évangile et où il y a aussi la louange et la prière, et l'Église qui écoute ses contemporains, et parce qu'elle écoute ses contemporains, elle doit sans cesse réinterpréter l'Écriture.
Ah, réinterpréter.
Réinterpréter.
Qu'est-ce que ça veut dire, ce mot?
Ça veut dire continuellement à travers l'histoire, parce que nous sommes des êtres humains qui vivons dans l'histoire. Réécouter la parole de Dieu, c'est l'accorder à la culture d'aujourd'hui, à ce que les êtres humains vivent d'aujourd'hui. La culture d'aujourd'hui, c'est pas la même culture qu'au 15e ou au 14e siècle. Copernic est passé par là, Einstein est passé par là, les sciences sont passées par là, c'est le pluriculturalisme aujourd'hui, et surtout c'est la question écologique aujourd'hui, la transition écologique. Alors est-ce que c'est encore la même parole de Dieu? Donc l'Église écoute et réinterprète en écoutant.
Oui, mais alors vous posez la question là du fondamentalisme possible, parce qu'il y a des personnes qui disent « c'est écrit, ça ne bougera pas, les sociétés ont beau bouger, c'est la parole de Dieu et on doit la lire comme on l'a toujours lue ». Alors, qu'est-ce
et
que
non.
vous diriez là-dessus?
Et non, c'est-à-dire c'est toujours évidemment la même parole de Dieu, parce que c'est le même Dieu depuis toujours. depuis toujours. Et c'est toujours la même parole, c'est bon, c'est bon, c'est très bon. Mais dès qu'on entre dans nos modes de vie, nos styles de vie, les questions extrêmement concrètes que le synode sur la famille a abordées, le problème du divorce, comment parler avec des homosexuels, etc. Toutes les questions infiniment concrètes, il faut réinterpréter, ça veut dire il faut réentendre la même parole de Dieu adressée à l'homme d'aujourd'hui. C'est pour ça que j'avais dit dès le départ, dès la première séance, on ne peut jamais séparer les Écritures, ce que nous entendons dans les Écritures et les voix des êtres humains qui nous entourent.
Vous voulez dire ?
Dieu parle aussi à travers les femmes et les hommes que nous rencontrons.
Oui, donc la réciprocité qui se jouait au niveau individuel entre Jésus et un homme rencontré en son époque, elle se rejoue entre l'Église et une société.
Tout à fait.
Il n'y a pas un enseignant, un enseigné, mais il y a une espèce de dialogue entre les deux.
Il y a un dialogue où ce que le Concile, parce que ce que vous venez de dire, c'est notamment le Concile Vatican II qui l'a souligné dans Gaudium et Spes, la constitution pastorale, ou dans la déclaration sur la liberté religieuse, où il est question d'une recherche commune de la vérité. Ça, c'est remarquable. L'Église ne peut pas chercher ce qu'est vrai aujourd'hui sans passer en même temps par tous les autres.
À demain, Christophe Théobald.
À demain, Béatrice.